Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag. Bei den philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz. In einer Zeit, die von Covid-19 durchzogen wird, werden wir auch heute, wie schon vor 1,5 Monaten, eine Sendung mit Bezug auf diese Pandemie machen. Allerdings ist der Bezug sehr seitlich, möchte ich sagen. Wir werden uns nicht in die direkte Auseinandersetzung einmischen über Maskenpflicht, Privatheitsrecht, Demonstrationen, sondern ich habe mir gedacht, wir machen eine Erinnerung an ein Thema, an einen Theoretiker, der nicht in der Vorderfront der zitierten Personen in diesem Zusammenhang steht. Ich sage es gleich heraus, an Roland Barthes. Auf Roland Barthes als einen Anstoß bin ich gekommen durch den Titel einer Vorlesungsreihe, die er am Collège de France gehalten hat, 1976. Das war die erste Vorlesung, die er nach seiner Wahl in die Académie Française gehalten hat. Und der Titel dieser Vorlesung war Comment vivre ensemble, wie man gemeinsam lebt. Dieses gemeinsam Leben hat er nicht aufgefasst als ein im engeren Sinn soziales Leben im Sinn von Staatsgestaltung, im Sinn von Beschreibungen des Zusammenlebens großer Massen, sondern er ist ausgegangen davon, dass es einen Lebenszusammenhang im frühen Christentum gegeben hat, für den man den Namen Idiorhythmie geprägt hat, ein Lebenszusammenhang im mönchischen Bereich. Nicht im mönchischen Bereich, wie es im Westen bekannt ist, wo ja bekanntlich Orden, größere Orden, Regeln festgelegt haben. Die Benediktregel ist bekannt für größere Ansammlungen von Priestern, Fratres und Patres, die sich diesen Regeln unterworfen haben und ein gemeinsames Leben geführt haben. Chorgebete sind an dieser Stelle besonders zu nennen, sondern in dieser früheren orientalischen Ausprägung des Mönchtums hat es etwas gegeben, was ein individueller Rhythmus gleichzeitig mit Bezug auf ein lockeres Zentrum gegeben hat. Man hat sich ausgetauscht im Zusammenhang mit Speise, Verpflegung, auch mit bestimmten geistlichen Übungen. Aber sonst sind die beteiligten Mönche ihren eigenen Weg gegangen. Diese Idiorhythmie, die eine Individualisierung mit lockerer sozialer Koppelung ist, hat Roland Barthes besonders interessiert. Und er hat ein Verfahren gefunden, das dieser Eigenorganisation, der Selbstorganisation, die nicht eine systematisch entwickelte Hierarchie voraussetzt, auch in der Art und Weise seiner Vorlesung Rechnung getragen. Er hat nämlich ein Alphabet zusammengestellt, mit dem es gelingt, den ganzen Formenkreis dieses gemeinsamen Lebens beginnend von historisch verbürgten kleinen Mönchsgemeinschaften darzustellen, ohne dass jetzt hier ein innerer Zwang der Logik der Entwicklung dieses Phänomens vorgegeben wäre. Ich greife aus diesem ABC das Kennwort Chambre, Zimmer, heraus, das sich sehr gut eignet, an dieser Stelle auch den geschichtlichen Duktus, den Roland Barthes im Auge hat, herauszustreichen, aber insbesondere auch, und da komme ich auf die Gegenwartssituation zurück, auch deshalb, um anzuknüpfen an Quarantäne, an das sich isolieren in einer sozial eingeschränkten Situation, in ein Zimmer, in ein Hotelzimmer, in das Wohnungszimmer und in diesem Zimmer gemeinsam zu leben mit anderen Mitgliedern des Haushalts, des Bekanntenkreises. Und diese Art von restringierter Lebensform, sei es nun aufgezwungen oder sei es selbst gewählt, ist eine gewisse Parallele, mit der ich hier operieren möchte. Es ist aber so, das ist eine erste Warnung, die ich hier geben möchte, dass das, was Roland Barthes sagt, hineingreift in einen Reichtum von Assoziationen, historischen und soziografischen, gruppenanalytischen Beobachtungen, die weit über das hinausgehen, was im verengten Blick eines Quarantänezusammenhangs ins Auge fällt. Und das ist auch eine der Absichten, die diese Sendung verfolgt, ausgehend von einer restriktiven Wohnsituation in einem Zimmer deutlich zu machen, was jemand kulturtheoretisch, semiotisch, poststrukturalistisch ausgewiesener französischer Theoretiker an dieser Stelle alles zu mobilisieren vermag. Das war die eine Warnung. Die zweite Warnung betrifft die Sprache, die hier in dieser Sendung dokumentiert und verwendet wird. Die Vorlesungen von Roland Barthes sind nicht nur in einem Buch, das auch auf Deutsch, Gemeinsam leben, erschienen ist, dokumentiert, sondern der französischen Version liegt auch eine Audiodokumentation vor, in zwei CDs in diesem Fall. Und diese Audiodokumentation gibt wieder Roland Barthes im Hörsaal in seiner direkten Präsentation. Nun ist dieser Vortrag von Roland Barthes in einer Weise selbst dokumentierenswert, weil er in einer Ruhe, in einer Beständigkeit, in einer faszinierenden, detaillierten französischen Gelehrtenmanier seine Ausführungen vorträgt. Und es scheint mir darum sinnvoll, eine ganze Reihe von Originalzitaten von Roland Barthes, französisch, hier in die Sendung mit hineinzunehmen. Ich werde den Inhalt, um den es hier geht, vorweg immer kurz erläutern, hoffe aber darauf, dass einerseits französisch Interessierte und französisch kundige Teilnehmerinnen, Hörerinnen eine Freude an dem Original haben, und für die das nur zum Teil oder gar nicht gilt, möchte ich darauf hinweisen, dass der Duktus, die Sprachmelodie, der ganze Gestus, den Roland Barthes hier zeigt, einer eigenen Dokumentation wert ist. Roland Barthes hat sein Stichwort Zimmer in 4 Unterabteilungen gegliedert. Der erste Punkt, den er macht, nennt sich Le Lieu Total, also der totale Ort. Das zweite, was er bespricht, ist das Zimmer, das sich im Haus isoliert. Das dritte ist das Zimmer, das sich vom Paar, von der Paarbeziehung isoliert. Und das vierte nennt sich La Magnificenza, also die Großartigkeit. Was es damit zu tun hat, der Reihe nach, der totale Ort ist mehr oder weniger Unterschied zum Zimmer im eingeschränkten Sinn, nämlich er beginnt beim Paradies. Er bezieht sich auf eine Publikation von Joseph Rickwert, der schreibt über das Haus Adams im Paradies. Das ist eine Darstellung davon, dass Adam ja nicht einfach im Garten Eden gelebt hat, sondern dann auch speziell mit der Gefährtin Eva irgendeine Unterkunft anzunehmen ist für ihn. Und dass diese Hütte, die dem Adam hier zugeschrieben werden muss, die er sich möglicherweise selber gemacht hat, dass diese Hütte der Anfang der Behausung in der Welt ist. Also Menschen, die sich definieren auch als solche, die einen Schutzraum haben. Eine einfache Ausweitung dessen, was ihre Kleider zum Beispiel und auch ihre Werkzeuge sind. Eine Form von Körperschutz gegen das Wetter, gegen Außeneinflüsse und eine Form ebenfalls, sich in einer Geometrie anzupassen einem Kosmos. Die Rolle, die Rückwärts dieser Hütte zuschreibt, diese Rolle ist die eines Urtyps von Architektur, wie er im weiteren Folge der Zivilisation ausgeprägt worden ist. Und die verschiedenen Formen, die diese Architektur angenommen hat, die durchaus wie der Beginn im Garten Eden unter der Ägide Gottes auch mit dem Heiligen zu tun haben. Die Arche Noe ist, wie ja bekannt aus der Bibel, ebenfalls ein Haus, das schützt als ein Haus auf dem Meer, also als eine Unterkunft für die zu rettenden Tiere und Menschen vor der Sintflut und ist aber gleichzeitig auch dadurch, dass es ein Rettungsort für die Tiere ist, die sich fortpflanzen können, eine Überleitung zur Landwirtschaft, die nach dem Ende der Sintflut wieder angekurbelt wird durch die Paare, die in der Arche Noe gerettet worden sind. Auch in diesem Fall, wie im Paradies, entfaltet sich rund um die Hütte, in dem Sinn, in diesem Fall rund um die Arche, der Rest der Welt, der erschlossen wird durch Agrikultur. Ein weiterer Bereich, in dem diese Eingrenzung auf Zimmerräumlichkeiten mit dem Sakralen zusammenhängt, ist dann der Tempel von Jerusalem, der als Zentrum des jüdischen Glaubens figuriert und der dann in den christlichen Kirchenbau hineingewirkt hat. Roland Barth erwähnt wichtige Kirchenbauten, wie zum Beispiel in Aachen Karl der Große, dann natürlich der Escorial von Philipp II. Erbaut in Spanien. Und ganz allgemein spricht er davon, dass auch die Paläste als Demonstration der landübergreifenden Macht von Herrscherhäusern ein Zentrum haben im Zimmer des Herrschers.
Je vais me servir d'un livre, d'une thèse, qui est exprimée dans un livre d'un architecte anglais qui s'appelle Rick Wert. Le livre a été traduit en français et il s'appelle justement La maison d'Adam au paradis. En effet, le paradis, n'est-ce pas, première proposition, le paradis implique la maison. Dieu a créé Adam et Ève afin qu'ils se tiennent compagnie et qu'ils puissent deviser entre eux et avec lui. N'est-ce pas, on oublie toujours cela. Dieu a créé Adam et Ève pour qu'ils puissent parler à trois, tous les trois, ce qui est la formule même du mouvement idiorythmique. Dieu n'a pas créé la conjugalité, il a créé le trio. Donc qu'ils puissent deviser entre eux et avec lui, quand, je cite, « ils se promenaient dans le jardin à la brise du jour ». La maison, c'est donc une contre, le domaine plutôt, c'est une contre-solitude pour Dieu lui-même. L'Éden, Adam par exemple, est chargé de cultiver et de garder l'Éden, et dans l'Éden il y a des terrasses, des plates-bandes, des promenades, on se promène, on s'arrête, il y a des réserves, des coupes, des jarres, des resserres, bref, c'est le domaine campagnard, n'est-ce pas ? Et c'est ce que j'appelle un lieu total. Voilà ce que c'est que l'Éden. Alors ensuite, il y a une autre figuration fantasmatique du paradis, c'est la cabane, c'est-à-dire la maison proprement dite, et la cabane, ce que Rick Wert appelle la cabane d'Adam. Et la thèse de Rick Wert, c'est que cette cabane d'Adam a joué un rôle nucléaire, un rôle obstiné de cette cabane primitive, a été fantasmée pendant des milliers d'années comme un modèle pour les architectes. Tout architecte, selon Rick Wert, essaye de refaire la cabane d'Adam au paradis. Ou du moins, une certaine tradition d'architecte, celle qui a surtout pour modèle l'architecture en bois. Et cela, donc, jusqu'au début du Bauhaus, n'est-ce pas, où ce qui était dessiné, fantasmé, postulé et souvent accompli, c'était une demeure en rondin de bois. Enfin, je ne veux pas insister sur ces problèmes qui sont des problèmes d'architecture. Je dirais que l'intérêt de la thèse de Rick Wert, c'est que là, il pose la cabane, c'est-à-dire la maison, selon une détermination qui n'est plus fonctionnelle, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que pour lui, ce qui prime l'homme, au fond, à élaborer des cabanes ou des maisons, pas tellement ou pas seulement, je n'ose pas dire pas du tout, je n'en sais absolument rien, mais en tout cas, pas tellement ou pas seulement pour s'abriter des intempéries, ce qui est l'hypothèse purement fonctionnelle, mais selon une opération symbolique. Et je crois que c'est en cela que la thèse est importante. L'homme a inventé la maison par une opération symbolique. Il a voulu créer un volume que le sujet, que l'homme, puisse interpréter en fonction de son propre corps. Qu'on trouve dans la Bible, dans l'Écriture, la première forme de maison, c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé qui représente l'autarcie absolue, c'est une sorte de résumé, de compendium du monde, une encyclopédie des espèces, qui est évidemment un gage de reproduction. Alors je crois que l'arche de Noé correspond à l'habitation de la famille, avec un grand F, au sens patriarcal, et que par là même l'Arche de Noé est le modèle de tous les domaines ruraux. Tous les domaines ruraux ont au fond pour modèle implicite l'Arche de Noé.
Roland Barthes geht im zweiten Unterpunkt seiner Überlegungen über das Zimmer auf ein zentrales Motiv eines Zimmers im Sinn des Aufbaus der Familie und damit der Gesellschaft ein, nämlich das Schlafzimmer, das Chambre conjugale, also das Ehezimmer, das Ehebett im Schlafzimmer, wie man sagt. Und er weist darauf hin, dass diese eheliche Verbindung zusammen mit der Schamhaftigkeit, die darin liegt, dass das Schlafzimmer unter bestimmten Umständen nur zu betreten ist und der Ort des Sexualverkehrs auch der Primärszene ist, die sich verbindet mit der Dynamik und auch der Konfliktbeladenheit einer Familie. Und dann macht er noch einen zusätzlichen Hinweis, den er illustriert mit einer Erinnerung an seine Großmutter, dass nämlich dieses Schlafzimmer gerade deshalb, weil es abgelegen und wichtig, zentral ist, auch die Funktion des Aufbewahrungsorts für wichtige, wertvolle Gegenstände ist. Einerseits Schmuck, andererseits auch ein Tresor, also Geld. Und wie es von seiner Großmutter erzählt, alles, was überhaupt wichtig ist, Ausweise, dann auch Erinnerungsstücke, die man in Sicherheit aufbewahrt wissen möchte.
La chambre va s'isoler dans ce bâtiment total, c'est-à-dire la chambre va devenir un lieu symbolique isolé de dans la maison, mais isolé aussi de la maison, dans et de la maison. Il y a donc à ce moment-là seconde étape, première étape si vous voulez, il y a dissociation du lieu total, il n'y a plus confusion de la chambre et de la maison, et la chambre devient un lieu symbolique autonome. Ce stade-là représente évidemment le stade de la chambre conjugale. C'est la chambre conjugale qui prend cette relève symbolique, cette fonction symbolique. Et là, le dossier qui serait à ouvrir, ce serait évidemment le dossier du rapport entre la conjugalité et la propriété. En effet, au moment où la chambre devient, la chambre conjugale devient un lieu à part dans la maison, il y a, la chambre appartient au couple sous ces trois espèces, le mari, la femme, le père, la mère, et le maître et la maîtresse, n'est-ce pas ? Cette chambre conjugale, c'est un lieu qui, dans les civilisations archaïques, notamment grecques, est un lieu qui est gardé. C'est un lieu qui est gardé comme secret, c'est un lieu du secret, et ici, bien sûr, il faudrait articuler tout le thème de la scène primitive, c'est un lieu du secret, et c'est un lieu du trésor, la chambre conjugale. C'est là où on dépose les choses les plus précieuses. Et bien entendu, ce serait intéressant de postuler une liaison entre la scène primitive, le secret et la propriété. Nous avons une bonne image de cette chambre conjugale qui est à la fois une chambre de trésor dans l'économique de Xénophon. C'est un livre de Xénophon qui représente, disons, pour parler moderne, le point de vue de la petite aristocratie terrienne de l'Attique, et c'est un livre qui décrit l'économie générale d'un domaine rural moyen. Or, comment s'appelle en grec la chambre conjugale? qui est aussi la chambre du maître et de la maîtresse du domaine, ça s'appelle l'article au Thalamos, avec un theta, n'est-ce pas? Thalamos, theta, T-H-A-L-A-M-O-S, au Thalamos. Or, ce qui est intéressant, c'est que dans Homère, le mot Thalamos veut dire magasin. Le mot Thalamos veut dire d'abord magasin, et puis ensuite chambre à coucher. Et Xénophon décrit le Thalamos comme étant placé dans la partie la mieux close de la maison, c'est-à-dire dans l'appartement des femmes. La chambre à coucher du maître et de la maîtresse sont dans l'appartement des femmes, et on y met les biens les plus précieux, à savoir à l'époque les couvertures et le mobilier. Le mobilier mobile, comme son nom l'indique. Et je dirais qu'encore de nos jours, il y aurait une enquête à faire, mais peut-être a-t-elle été faite, je ne connais pas les derniers développements de la sociologie écologique, n'est-ce pas ? Mais disons que ça pourrait être un sujet d'enquête dont les résultats, en tout cas personnellement, m'intéresseraient. Ça serait de savoir ce qu'est devenu dans l'appartement de la civilisation actuelle, de la civilisation technicienne, de la civilisation de la culture de masse, etc., de ce qu'est devenu la chambre à coucher conjugale en tant qu'elle peut être encore une chambre de trésor, c'est-à-dire une chambre qui est liée au thème de la propriété. Et il se peut que, vu la réduction progressive des places d'habitation, ce soit simplement un lieu particulier dans la chambre à coucher qui est maintenant cette fonction de trésor, qui est peut-être simplement l'armoire à glace. Il faudrait donc faire une sociologie de l'armoire à glace pour savoir exactement à quoi elle sert, et si on continue, si le ménage ou le couple continue à y déposer des objets précieux qui ont un rapport avec l'idée de trésor et de propriété. C'est-à-dire soit l'argent, bien sûr, soit l'échiquier, soit aussi les papiers d'identité, n'est-ce pas, qui sont un objet de propriété. Bon, je ne veux pas faire de rappel biographique facile, bien que chacun pourrait en faire, mais je sais très bien que dans mon enfance, dans la maison qu'occupaient mes grands-parents en province, à Bayonne, eh bien, dans la maison de la mère de mon père, il y avait effectivement une grande armoire qui n'était pas à glace, c'était un meuble ancien, et qui était bourrée de toutes les choses réputées précieuses, elle ne l'était pas beaucoup à vrai dire, de toutes les choses réputées précieuses détenues par le foyer. Qu'est-ce que c'est que les choses précieuses? Eh bien, je dirais, la définition en est très simple, ce sont les choses dont on s'imagine mythiquement qu'elles peuvent être volées. Et par conséquent, dans l'armoire de cette grand-mère, il y avait pêle-mêle des petites cuillères en argent et des pots de confiture. Parce que ça peut être volé. Donc, pour en revenir à notre thème, dossier à ouvrir, formulé par moi maintenant d'une façon un peu artificielle, un petit peu accrocheuse, je le reconnais, mais après tout, les idées de recherche, ça commence souvent comme ça, c'est le rapport au plan écologique, n'est-ce pas, au plan architectural, écologique, le rapport entre le trésor, c'est-à-dire le cœur même de la propriété, et le sexe. Et il faudrait là reprendre et mettre dans ce dossier non seulement donc des enquêtes de type sociologique, si elles existent, mais aussi tout un dossier mythique, mythologique, folklorique, et reprendre tout le thème dans les contes populaires, le thème très riche de la chambre secrète, comme par exemple la chambre de Barbe Bleue.
Der dritte Unterpunkt, der von ihm sehr ausführlich behandelt wird, ist dann nochmal eine Reduktion vom Ehebett im Schlafzimmer in das Zimmer in Reinkultur, wenn man so sagen will, die Zelle. Also die Überschrift ist La chambre se détache de coupe cella. Die Zelle, mit der er wieder zurückverweist auf den mönchischen Ursprung, mit dem er begonnen hat, ist in der Geschichte der Spiritualität der Ort des Kampfs mit einem Dämon. Das findet statt in der Privatheit einer 1:1 Auseinandersetzung des Versuchers mit dem versuchten Mönch, der damit über den Dämon zu siegen versucht. Roland Barth weist aber auf die Ambivalenz des Zimmers in diesem Zusammenhang hin und er scheut es nicht, in diesem strukturellen Ansatz komplett unterschiedliche Beispiele einander gegenüberzustellen, also der Mönchskampfsituation auf der einen Seite, wo das Zimmer der Ort der Gefahr ist, stellt er gegenüber Pascal und Rilke. Rilke, der sagt, es ist eine Zufluchtsstätte, die Ruhe des Zimmers, und Pascal, dem der Satz zugeschrieben wird, alles Unheil der Welt kommt daher, dass man nicht in seinem Zimmer bleiben kann. Also das Zimmer als der Ort des Heils in einer gewissen Weise. Er diskutiert dann im Zusammenhang mit diesem Zimmer auch die Frage, ob Mönchszimmer luxuriös sein dürfen, also welche Schmuck und Kunst Ausstattung so ein Raum haben könnte, und weist da wieder auf einen Ost-West-Konflikt hin, nämlich dass gebräuchlich im abendländischen Zusammenhang die Askese im Zimmer ist, leere Zimmer als Zeichen der Konzentration auf das Wesentliche, was nicht die irdischen Dinge sind. Und andererseits zitiert er eine Studie von André Barraud von Mönchen aus Ceylon, bei denen festzustellen ist, dass sie durchaus komfortabel, wenn nicht sogar luxuriös ausgestattet sind, mit Kissen, mit eigenen Büchern, mit einem Radio, mit Fotos. Also ein Epikureismus auch in der Abgeschiedenheit eines Klosters. Ein wichtiger Punkt, und da komme ich jetzt doch auch mal auf Quarantäne und Erfahrungen zu sprechen, die man gemacht hat und macht in einer gegenwärtigen Isoliersituation, ist, dass solche Zimmer eine eigene Struktur haben. Es gibt bestimmte Gegenstände, Gebrauchsgegenstände, die in der Regel notwendig sind dafür. Also ein Bett, einen Arbeitstisch, eine Abstellmöglichkeit für persönliche Notwendigkeiten und Gebrauchsgegenstände, allenfalls Schmuck, Bilder, Pflanzen. Das macht aus dem einfachen geometrischen Zimmer einen Ort der Individualstruktur, was auch damit zusammenhängt, einen Punkt, auf den er hinweist, dass ein eigenes Zimmer zu haben in der Entwicklung der Familiensituation ein Zeichen der Reife ist und mit Identität zu tun hat, die wiederum ihren Ausdruck findet in der Gestaltung des eigenen Zimmers. Ein Punkt, auf den Roland Barthes in seinen Vorlesungen an mehreren Stellen zu sprechen kommt, ist ein Beispiel aus einem Roman von André Gide, La Séquestrée des Portiers, Da handelt es sich um einen Roman im Anschluss an eine wahre Geschichte, nämlich die Story einer Frau, Melanie, die von ihrem Bruder, von ihrer Mutter eingeschlossen worden ist in einem halb freiwilligen, halb gezwungenen Quarantänezustand und die über Jahrzehnte lang in diesem Zimmer zu leben hatte. Nach der Beschreibung von Audrey Schied in einem ausgesprochen unordentlichen, unstrukturierten Zustand, als dann die Polizei kommt, weil das Ganze schließlich auffliegt, findet sie alles durcheinander, Schreibstifte, Überzüge über das Kanapee, dann Konservendosen, leere Flaschen, die Kommoden ohne Laden drinnen, das alles ist in diesem Zimmer durcheinander. Ein Verlust der Strukturierung, der eine der Gefährlichkeiten ist, wenn man in einem Zimmer eingeschlossen nicht mehr den Austausch mit einem Ordnungsprinzip der von der Außenwelt legitimierten und estimierten Lebensweise ist.
Alors, cette chambre individuelle qui n'est plus conjugale, c'est précisément ce qu'on appelle en latin quella, cella, C-E-2-L-A, la cellule. Peut-être il n'est pas très bon d'ailleurs de traduire par cellule. Alors, maintenant donc quelques mots sur cette chambre individuelle comme lieu symbolique. L'origine historique de la cella, c'est-à-dire de la cellule, c'est évidemment la cabane des ermites, la cabane érémitique dans le désert. Et aussi, lorsque celui qui a fondé en tout premier lieu un monastère, dont j'ai déjà parlé, à savoir Pacôme, qu'il a fondé en Égypte le premier couvent, eh bien, à ce moment-là, dans ce début, les moines, dans ce couvent pacomien, ne dormaient pas en dortoir, ils avaient encore des cellules. D'ailleurs, il y a bien des monastères où les moines ont des cellules. Donc, l'origine de la cellule, c'est évidemment la cabane de l'ermite. Alors, évidemment, la cellule qu'elle a, c'est une représentation symbolique, disons, de l'intériorité. D'où l'ambivalence au sens propre, c'est-à-dire la double valeur de la cella. D'une part, la cella, la cellule, est considérée comme un lieu difficile, dur, dangereux, comme le lieu où le sujet, à savoir l'anachorète, l'ermite ou le moine, tient un combat extrêmement âpre, tout seul, contre les démons. C'est le lieu du combat démoniaque, de ce qu'on appelle en latin certamen, certamen, le combat anachorale de l'anachorète. Combat dans lequel le sujet humain lutte corps à corps avec le démon, solus cum solo. Voilà, ça c'est la première face de la cellule, lieu du combat démoniaque. Mais il y a naturellement un second versant qui est le versant bénéfique de la cellule. La cellule représente une intériorité que l'on peut dire pacifiante. La cellule apaise. La solitude de la cellule, je n'ose pas dire cellulaire puisque ça renvoie à l'univers carcéral, n'est-ce pas? Mais la solitude, si je peux employer ce néologisme, camérale de la chambre, a une fonction pacifiante. Et c'est ce qui s'exprimait dans le proverbe latin des moines, quella continuata, la cellule sans interruption, dulcecit, adoucit, pacifie, adoucit. Et je cite tout de suite un mot de Rilke, qui dit la même chose, si l'on peut dire, en transposant l'idée de cellule dans l'intériorité du sujet humain. Rilke écrit « C'était au fond de lui-même qu'il portait l'obscurité, le refuge et la tranquillité d'une maison. » Donc, et là est donné très clairement l'équivalence symbolique entre le cœur de la maison, la chambre comme refuge dans la maison, et l'intériorité de l'esprit comme refuge. Alors, tout cela se poursuit le long de l'histoire. Il y a toujours une ambivalence historique du thème de la chambre solitaire. D'une part, la chambre, c'est le symbole de ce qui enferme, et donc de ce dont on veut sortir, avec le mot pascalien sur les hommes qui sortent, tout le malheur, je ne sais pas citer, n'est-ce pas exactement, mais tout le malheur humain vient de ce que l'homme ne sait pas rester seul dans sa chambre, n'est-ce pas, et qu'il veut sortir pour se divertir. Et puis aussi, c'est aussi, si vous voulez, dans un ordre plus littéraire, le thème de ce que Flaubert appelait la marinade, c'est-à-dire l'épreuve de la stérilité de l'écrivain enfermé dans sa chambre quand il ne trouve rien à écrire, mais aussi, n'est-ce pas, d'une façon ambivalente, c'est le symbole de l'abri, du ressourcement d'identité, qui est sensible dans le fait que ne pas avoir sa chambre à soi est considéré comme une lésion, est souvent considéré comme une lésion de la personnalité, et que avoir sa chambre à soi est un seuil d'initiation pour l'adolescent ou l'adolescente. Alors, la version laïque de cette intériorité camérale de la chambre comme valeur, c'est cette valeur laïque qu'on appelle le quant à soi. La chambre, c'est le lieu du quant à soi. La chambre, c'est en effet, la chambre individuelle, c'est un lieu de fantasmatisation en tant qu'il est protégé. C'est là où je peux avoir des fantasmes et qu'ils soient protégés. C'est donc ce qui est soustrait à la surveillance. Et comme je l'ai dit, le combat pour la chambre, dans certaines familles, équivaut à un combat pour la liberté, qui peut être un combat très âpre dans certains milieux familiaux. Et on peut dire que, dans une certaine mesure, la chambre représente une sorte de lieu, ou de force même, anti-grégaire, et peut-être même une sorte d'espace, plus ou moins laïcisé, une sorte de volonté de puissance. Et à l'inverse, bien entendu, ce qui n'est pas la chambre, ce qui détruit le quant à soi de la chambre, est perçu immédiatement comme offensive ou répression du pouvoir. Par exemple, il y a une sorte de doctrine architecturale actuelle qui fait qu'avec les meilleures intentions du monde, c'est-à-dire ce qui s'est passé à Beaubourg, quand un architecte fait les plans d'un vaste lieu administratif, où normalement il y aurait eu, il y a 50 ans, des bureaux séparés, cloisonnés, n'est-ce pas, comme des chambres. Vous savez que maintenant, la doctrine, c'est d'ouvrir toutes les parois, de mettre tous les employés dans un vaste hall, séparé par des sortes de très petits éléments mobiles. Pourquoi cela? C'est ce qui se passe donc justement à l'étage, au niveau administratif de Beaubourg, et c'est l'architecte américain de Beaubourg qui l'a fait, ou anglais, je ne sais plus, Rogers, qui a fait cela, en conformité avec les doctrines architecturales actuelles, à savoir que la transparence supprime la surveillance. La transparence supprime la surveillance, supprime entre guillemets, n'est-ce pas? Parce que ça veut dire que tout le monde surveille tout le monde. Et en plus, bien sûr, si vous supprimez les cloisons, il y a une rentabilité de l'espace accrue. Donc, cette transparence est à ce moment-là un instrument ou une disposition répressive par laquelle la chambre, la vieille chambre, représente un, une défense de l'intériorité, c'est-à-dire, parce que l'intériorité n'est pas toujours forcément de type spiritualisant, l'intériorité, c'est peut-être simplement le pouvoir de fantasmer. Alors, je dis que ce problème du standing de la chambre n'est pas pertinent. Ce qui est pertinent dans la chambre individuelle, c'est-à-dire dans la kella, c'est le problème de la structure de cette chambre, de ce lieu. Et ce qui est pertinent, c'est le fait que la chambre individuelle jouit d'une autonomie complète et absolue de sa propre structure. La chambre est sa propre structure et elle est coupée de toute autre structure adjacente. Naturellement, une chambre, même très individuelle, est toujours plus ou moins structurée. Je veux dire que j'entends par structure de chambre une constellation, disons une espèce de réseau, de graphe, de réseau très souple, topologique, des lieux fonctionnels de la chambre, c'est-à-dire le lieu pour dormir, le lit, la table éventuellement de travail et des points personnels de rangement. Et toute chambre comporte cette structure-là, c'est-à-dire qu'elle a ses points répartis dans une certaine structure. Et la preuve qu'il y a toujours une structure de chambre pour chacun d'entre nous, c'est qu'en fait, au moins certains d'entre nous, dont je suis, peuvent transporter leur structure de chambre dans des villes extrêmement différentes. Et s'ils arrivent à reconstituer immédiatement la structure de leur chambre, quels que soient les objets dont elle est remplie, eh bien, l'habitation fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'une chambre qui est structurée à 800 km de distance de ma chambre habituelle, si elle est structurée comme ma chambre habituelle, eh bien, en 5 minutes après mon arrivée, je peux l'investir et y habiter. Il suffit que il y ait exactement la même disposition structurée entre la table de travail, le lit et certains points de rangement. C'est ce genre de réflexion qui amène à réfléchir sur une chambre qui, à première vue, est entièrement déstructurée, qui est la chambre de la séquestrée de Poitiers, dont j'ai déjà parlé un peu, dont je reparlerai d'ailleurs bientôt. Vous savez, il s'agit, je l'ai dit, de cette femme, Mélanie, qui a été séquestrée soit par sa famille, soit par elle-même, on n'a jamais su, si je puis dire, pendant 25 ans, dans une chambre entièrement cadenassée d'une maison bourgeoise de Poitiers. Cela se passait tout à fait à la fin du siècle dernier. Et quand la police est arrivée dans cette chambre, et qu'elle en a fait l'inventaire, elle a trouvé un lieu effectivement apparemment entièrement déstructuré, puisque Mélanie a vécu pendant 25 ans sur son lit. Donc la chambre, à ce moment-là, était absolument et rigoureusement réduite, c'est-à-dire la structure était rigoureusement réduite au lit. Et en effet, le lit peut constituer une structure à soi seul. Dans les hôpitaux, dans les sanats, le sujet peut se reconstituer une structure à la mesure de son lit. Il y a un exemple littéraire, enfin, qui peut être très célèbre, d'une structure réduite à un lit, qui est une structure extrêmement confortable, qui est la structure, qui est le lit de la tante Léonie dans Du côté de chez Swann, n'est-ce pas? Bon, c'est un lit, disons, luxueux, puisqu'il est agrémenté d'une table qui le longe, et où il y a différents objets, et puis de la fenêtre, n'est-ce pas, par où elle peut voir dans la rue. Mais le lit de la tante Léonie, c'est une structure, ça fonctionne comme une structure. Alors, pour la séquestrée de Poitiers, c'est le lit qui était la structure, et le reste de la chambre était vraiment un espace rigoureusement à structurer. Il y a l'inventaire des objets qui étaient comme ça jetés à travers cette chambre, qui n'étaient que des déchets, sans sans place, pour ainsi dire. J'énumère parce que ça donne une idée de cette espèce d'espace de séquestration. Une commode sans tiroir, 4 bouteilles vides, n'est-ce pas? C'est un inventaire de police, c'est pour ça qu'il est très précis. Une commode sans tiroir, 4 bouteilles vides, 3 boîtes de conserve, un jeu de loto, 2 écrous, une monture de canapé, des loques remplies de vermine, une tête de poupée, un chapelet, 5 bouts de crayon.
Der letzte Unterpunkt ist wiederum ein Versuch, mit Oppositionen strukturell die Beschaffenheit dieses Phänomens herauszustreichen. Es ist ausgehend von der Frage, gibt es auch eine modellhafte Antihütte? Was hat man sich vorzustellen als die Alternative, das Gegenteil zu den beschriebenen geometrischen Ordnungsstrukturen, die Ruhe und aber auch Kampfstätte darstellen? Und sein Hinweis ist wieder herausgepickt aus der Kulturgeschichte. Er weist auf Piranesi hin, auf die Carceri, auf die Kerkerzeichnungen von Piranesi, die alles andere als zellular sind, die keine übersichtliche, beherrschbare Geometrie besitzen, sondern Räume der Krise, Räume des Dramas, Räume der Erhabenheit sind. Roland Barthes zitiert Piranesi: aus dem Terror, aus der Angst kommt die Freude. Diese Form von dramatischer Freude ist in einem Zimmer nicht zu finden. Es geht um eine dekorative, auch hysterische Transzendenz. Und das Wort, das er dafür aus dem Italienischen bezieht, ist Magnificenza.
Un modèle, disons, d'anti-cabane, ce que j'appelais la cabane d'Adam, c'est pas la maison d'Adam qui aboutit à la chambre, c'est-à-dire au lieu symbolique de l'intériorité la plus secrète, la plus profonde. Est-ce qu'il existe, dans les représentations historiques de notre civilisation, quelque chose qui peut fonctionner comme un corps de représentation opposé à toutes les valeurs de la chambre? Est-ce qu'il existe une architecture qui nie le quant à soi, qui nie la chambre, qui nie la cella, comme valeur, disons, épicurienne d'intériorité? Eh bien, vous savez qu'il y a eu un débat historique au niveau des arts d'architecture entre, à l'époque classique, entre les partisans de Rome, d'une part, et d'autre part, les partisans des Grecs, qui étaient considérés justement comme des copieurs de cabanes. Les Grecs, l'architecture grecque, disons en gros le Parthénon, qui est en train de s'effondrer d'ailleurs, eh bien, c'est, disons, une cabane, le Parthénon. Hein? C'est une cabane, c'est dans la ligne de la maison d'Adam. Et donc un débat a opposé les partisans des ruines romaines aux partisans des ruines grecques. Et il y a un très grand créateur italien, un graveur, qui représente bien ce débat et qui est Piranèse. On peut dire que les prisons de Piranèse représente l'anti-cabane. C'est l'anti-cabane. C'est, je n'ose pas dire l'anti-chambre parce que ça serait un horrible jeu de mots, mais la contre-chambre. Et vous notez, n'est-ce pas, si vous avez dans la mémoire les prisons de Piranèse, vous vous rappelez que ces prisons sont extrêmement vastes et qu'elles sont précisément anticellulaires, n'est-ce pas ? Elles sont constituées par une espèce de chavirement démoniaque des plans, avec des escaliers qui montent, qui descendent, des cordages qui traînent. C'est vraiment le contraire même de l'intériorité. Et on peut dire que les prisons de Piranèse, c'est l'espace de la crise, l'espace du drame, l'espace du sublime, qui était une notion esthétique de l'époque, n'est-ce pas ? Le mot de Piranèse lui-même à son art convient très bien, à savoir de la terreur jaillit le plaisir, n'est-ce pas ? C'est la définition du sublime. Le sublime, c'est le mélange de terreur et de plaisir. Et c'est ça, les prisons de Piranèse. Alors, dans ces prisons de Piranèse, il y a comme une ouverture dramatique, une critique violente du quant à soi et une espèce de d'éjection du fantasme de la chambre, de l'intériorité comme refuge et jouissance, la figuration d'un lieu d'agitation passionnelle, d'une transparence à la fois décorative et hystérique, toutes ces valeurs s'affirmant contre la chambre. Or, en italien, tout cet ensemble de valeurs que je viens de dire a reçu un nom, qui est donc le nom qui s'oppose même à l'intériorité de la cellule, et ce nom, c'est la magnificenza. Enfin, c'est donc le thème de la magnificenza qui s'opposerait, disons, thématiquement au thème de la chambre. Il n'y a pas de chambre magnificente, si vous voulez. Thank you.